si vous voulez bien, Romains 6 est quand même un passage très important. Je propose dimanche prochain, à partir de 14h, de faire une étude et un partage sur le baptême pour tous ceux qui sont concernés, ou tous ceux qui voudraient revenir sur le chemin du baptême, qui n'ont plus trop conscience de ce que ça veut dire. Ou qui veulent aider les autres aussi. Dans Romains chapitre 6, il est essentiel de se rendre compte que des affirmations qui sont très fortes. Romains chapitre 6, verset 3, « Ignorez-vous, » donc Paul parle à des églises qui existent à Rome, qui sont fondées, qu'il n'a pas encore visitées, que Pierre n'a pas encore visitées, qui existent déjà, parce que c'est des gens de la Pentecôte, quand ils ont reçu l'Esprit Saint et reçu des enseignements, les gens de Jérusalem, les chrétiens, ont vendu leur maison. Ça a permis de loger et de nourrir des personnes pendant des mois et de les former. Quand elles sont reparties, elles ont pu fonder des églises. Il y avait beaucoup de disciples qui sont sortis de la Pentecôte, ils étaient enseignés, et ils ont pu apporter un plus aux autres, à ceux qui les entouraient. Ils ont créé des assemblées. Ces assemblées, bien sûr, avaient des points faibles, des points forts. Vous savez, quand on va en Afrique, c'est la même chose en Europe de toute façon, quand on visite des assemblées, mais en Afrique, il y a eu un rush vers l'évangile dans beaucoup de pays. Et puis, ce qui se passe, on a des assemblées parfois très importantes et pas assez d'enseignants, de gens qui ont étudié, qui ont été formés. On a bien des gens qui sont tout feu, tout flamme, hein, mais on voit bien, ils n'ont pas la capacité d'enseigner, ils n'ont pas la connaissance des textes, et ils n'ont pas la capacité de reprendre les personnes à partir du texte. Ils lancent des paroles, ils crient, etc. Ils affirment des choses, mais proportionnellement au bruit et à l'intensité de la musique, ils ont l'impression d'avoir pris l'autorité et de garder les gens sur le chemin. C'est pas ça la vraie autorité. La vraie autorité, c'est la parole de Dieu. C'est la connaissance profonde de la pensée de Dieu. La vraie autorité, il n'y a pas besoin de crier, pas besoin de faire du grand bazar. Et ça, c'est un leurre. Il se peut que dans 20 ou 30 ans, beaucoup d'églises en Afrique soient tombées et que l'islam soit à la place ou simplement le matérialisme, parce que simplement il y a manqué d'enseignement, de doctrine, de vrais enseignants. L'idéal, c'est de former des gens dans la Bible pendant 5 ou 10 ans, et puis ils font eux-mêmes, ils forment des pasteurs, ils forment des gens solides dans la parole de Dieu, qui ne vont pas tourner comme la girouette, suivant le vent, à toutes sortes de doctrines. Il y a beaucoup de doctrines, vous savez. C'est dingue, les hérésies. Alors, on va essayer d'éviter de faire des hérésies à propos du baptême. C'est pour ça que je vais dans ce texte. Romains chapitre 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc, on n'est pas baptisé dans l'eau, on est baptisé dans la mort de Jésus à la croix. Pourquoi ? Parce que si vous allez dans Marc chapitre 10, c'est toutes les choses que je vous ai dites. Mais bon, il faut bien que j'avance, que je les redise, et que j'aille un peu plus loin. Marc chapitre 10, quand Jésus est sur le point d'être arrêté et d'être crucifié, il parle avec ses disciples. Et naturellement, ses disciples, ils n'ont qu'une idée. C'est que Jésus soit le roi en Israël, devienne le grand chef du monde, et puis qu'ils aient une place à gauche et à droite, ministre des Finances, ministre de l'Intérieur, etc., des Affaires étrangères, enfin, ils ont une vue très terrestre du ministère. Et c'est de la folie, pure et simple. En Marc chapitre 10, après avoir répondu à ses disciples, Jacques et Jean, au verset 36, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-il, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Bon, une gloire comme M. Trump, comme M. Poutine, M. Macron, etc. Allez, vas-y, Nénès. Une gloire comme Satan a proposé une à Jésus sur le mont de Jérusalem, sur le mont Sion. « Mets-toi mes genoux, je te donnerai toutes les gloires. » Cette gloire-là, ben, bien sûr, il y en a toujours pour rêver de la voir. Et il y en aura toujours pour la chercher tant que Jésus ne sera pas revenu. Il n'aura pas arrêté cette spirale de la grande séduction, du grand mensonge de Satan. Mais toujours est-il que juste après, Jésus répond autrement. Verset 38, Marc 10, 38, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Bon, vous êtes des ignorants. Bon, c'est clair. Au moins c'est clair. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Alors, il s'agit de la mort à la croix. La mort à la croix comporte un aspect, c'est la coupe. La coupe, c'est le symbole de la colère de Dieu sur le péché, sur l'injustice, l'iniquité du monde. Et il y en a un paquet, hein, sur la terre. De l'injustice organisée, volontaire ou involontaire, en tout cas, bon, ça a l'air de plaire aux hommes, parce que ça continue toujours et ça augmente toujours, en crescendo. La deuxième chose, donc, il y a une colère de Dieu sur les hommes à cause de ça. Donc Jésus va la prendre sur lui. La deuxième chose, c'est baptiser du baptême dont je dois être baptisé, c'est-à-dire le baptême existait durant l'Empire romain, et c'était simplement l'acte officiel d'appropriation d'un esclave, de quelqu'un qui avait été pris, qu'il soit de Turquie, de Roumanie, d'Angleterre, ou du Maroc, ou d'Égypte, de Palestine. Il était déjà prisonnier, il avait déjà perdu tout, mais il fallait l'humilier officiellement, il fallait l'abaisser, lui changer son nom et tout, et bien montrer à tout le monde qu'il appartenait comme un petit chien à un chenil, hein, et qu'il sortait du chenil, pam, il est tué, et puis c'est bon. On remplace par un autre chien. Bon, ça c'était dans le système romain, un système très inique, très injuste, et ce baptême, quand on enfouissait l'homme ou la femme ou l'enfant ou le vieillard dans l'eau, il perdait officiellement toute idée de lui-même, il était dépersonnalisé, et il ressortait, il recevait un nom et le titre d'un propriétaire. Il ne pouvait pas sortir du territoire, il devait travailler. Donc l'expérience la plus proche que nous voyons dans l'histoire, dans les bouquins, c'est celle des afro-américains en Louisiane. Mais je vous dis qu'en Libye actuellement, c'est pire, et en Turquie, dans beaucoup d'autres pays aussi. C'est pire. Je n'ai jamais fini ce cancer de l'humanité, l'esclavage. Tant que Satan est là et tant que les hommes sont au service de Satan. Alors, ce baptême était suivi de la sortie de l'eau, où il recevait un autre nom, une autre identité. Donc c'était quelque chose d'assez horrible, d'assez humiliant, et qui n'était pas choisi. Chez un chrétien, eh bien, à l'époque des premiers chrétiens, le symbole du baptême, c'est que c'est volontairement que je vais dans l'eau, c'est volontairement que je reconnais que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés, c'est volontairement que je renonce à toute la vie ancienne. C'est volontairement que je sais que Jésus a subi une sanction totale pour moi, mais que ressuscité, lui Jésus, il prend ma vie en main pour me conduire sur un autre chemin. Lui ressuscité, il me conduit sur un autre chemin, un chemin de sainteté, un chemin de vérité, un chemin que lui seul connaît. Et donc, le baptême du chrétien, c'est réellement quelque chose de libérateur, de rédempteur. Ça fait la rédemption qui est en Jésus-Christ et qui a été consentie au moment où on a cru. Le baptême ne donne pas le Saint-Esprit, le baptême a été donné, le vrai baptême a été donné dans le Saint-Esprit au moment où on a cru. Ce n'est pas l'eau qui donne le Saint-Esprit, contrairement à ce que certains, même chez les baptistes, des évangéliques racontent. Alors, ignorez-vous que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, hein, avec lui, par le baptême en sa mort. Au moment où Jésus est mort sur la croix, Dieu savait qui, ceux et celles qui allaient être sauvés par Jésus. Ok ? Et ça, c'est extrêmement important. On va voir des autres textes. Et vous voyez, il y a quelque chose qui suit, ça. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ben oui, puisque Jésus étant ressuscité, il a tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il peut me conduire, nous conduire dans cette vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est comme si, quelque part, j'étais une plante morte, et tout, ou qui était fanée, et on me greffe dessus sur une plante bien vivante, et je reprends vie. Alors, verset 6, « Sachant que notre vieil homme... » Donc, la nature humaine marquée par le péché d'Adam et Ève, et qui s'égarait régulièrement dans ses pensées, dans ses actions, etc., dans ses omissions, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Autant un esclave romain, sa vie ancienne était détruite à jamais, autant, pour un chrétien, la vie ancienne, lorsqu'il choisit Jésus-Christ, doit... Il doit en être conscient, elle est détruite. S'il n'a pas pris conscience de ça, il va retourner régulièrement à sa boue, comme le cochon, à son vomi comme le chien, dit Pierre, et il n'a pas réellement compris ce que c'était que son vrai baptême, sa vraie vie chrétienne. Et s'il est baptisé dans l'eau sans avoir vraiment compris et avoir vécu dans son cœur le vrai baptême, c'est un baptême simplement pour être mouillé. C'est quelqu'un qui est baptisé, qui n'est pas sauvé. Il a seulement fait trempette. Alors, pour éviter les malentendus sur le baptême, il faut connaître la nature vraiment du salut. Ce n'est pas une question de trempette, le baptême. L'eau ne donne pas le salut. Les paroles du prêtre ou du pasteur ne donnent pas le salut. La prière de l'assemblée ne donne pas le salut. Le salut est sur la croix en Jésus et dans sa résurrection. Continuons à lire ce texte. Romains chapitre 6, verset 8. Si nous sommes morts avec Christ, donc réellement il y a une mort dans mon vieil être, ma vieille nature, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ben, si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, elle n'en a plus sur moi. La séparation éternelle d'avec Dieu, qu'on appelle la mort dans la Bible, n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis profondément attaché à Christ, donc je suis profondément attaché à Dieu pour toujours. Il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, regardez, dans notre conscience, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça donne une autre identité, une identité de vivant, une identité où le passé est mort, et puis ça donne aussi une injonction morale, une injonction éthique, un impératif de sanctification, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Que veut dire Paul ? Bien que vous ayez accepté la rédemption en Jésus-Christ, la convoitise est toujours là. Il y a une forme de vanité inhérente qui reste encore jusqu'au moment où Jésus va revenir, c'est la convoitise. Donc, pour l'alcoolique, par exemple, ben, s'il buvait beaucoup avant, moi j'ai vu ça, une fois je priais avec un monsieur, il buvait 6 bouteilles de vin, 1 bouteille de whisky par jour. Il m'appelait toujours la nuit, c'était 11h du soir quand je revenais d'une réunion, je rentrais parfois 5h du matin, mais n'empêche, un jour, je vois après que Dieu l'ait béni, j'avais prié avec lui, il ne buvait plus rien, il n'avait plus soif. Mais le problème, c'est que s'il n'avait plus la convoitise de l'alcool, il en avait des autres. Et la voisine en face, une femme mariée, lui a fait de l'œil, et puis il craque, boum, la convoitise a pris une autre forme. La convoitise est une âme redoutable pour de Satan pour nous faire égarer Et évidemment, ça peut être autre chose. Il n'est pas forcément. J'ai vu ça chez des gens avec qui j'avais prié, et puis ils étaient adonnés à la masturbation. Ils étaient complètement déréglés par la masturbation, et il n'y avait pas moyen de les amener à une vraie vie chrétienne. Parce qu'ils n'avaient pas réellement décidé de combattre leur convoitise. Et regardez le mot, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Le mot « livrer », ça veut dire « je vends quelqu'un comme esclave à quelqu'un ». Ça veut dire « si je suis sauvé, si je crois vraiment en Jésus, est-ce que je l'aime ? Pourquoi est-ce que je me vends au péché ? Quand je suis devenu chrétien, j'ai toujours le choix de me vendre pendant une heure un film pornographique qui passe, me vendre à, je sais pas moi, à des gros gueuletons et des guindailles avec des copains, ou tout simplement, ben, je suis en bagnole, et ben, il y a des 90, il y a des 50 à l'heure, il y a des 120, il y a des 110, et ben, moi je roule à 180, je m'en fous de toutes les règles. Ce sont toutes des choses qui sont où on se vend et on dit, oh c'est pas grave. Parce qu'on pense qu'il y a des petits péchés, des grands péchés. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Il n'y a que le péché. Le péché est une offense à Dieu. Le péché est un manque d'amour et de consécration à Dieu. Point à la ligne. Et c'est un goût de la mort qui revient. Un goût de la mort du gouffre. Si je commence à faire ce genre de choses où je me vends, je me livre aux convoitises, je me jette dans le gouffre moi-même. Ça veut dire que pour le chrétien, pour le non-chrétien, il y a un gouffre, un abîme, il n'y a pas de garde-corps. Et pour le chrétien, ben Dieu a mis des garde-corps. Et puis il a mis, attention, chute possible, ne vous approchez pas à moins de 2 mètres. Hein? Il y a quand même un grillage et tout, j'ai déjà vu ça en montagne, il y a des choses. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ben non, on est 2-3 gugus, on se coule la barrière comme il faut et on la tape dehors. Et puis la fois d'après, il y en a qui vont se jeter dans le vide. Alors, on peut se jeter et se livrer comme instrument d'iniquité, c'est-à-dire de désobéissance volontaire, en sachant qu'on ne peut pas le faire. C'est ça que Paul dit. Et il dit, il ne faut pas faire ça. Il dit au verset 13, donnez-vous vous-même à Dieu. C'est-à-dire que l'injonction d'un chrétien, de quelqu'un qui a aimé le Seigneur, de quelqu'un qui a compris ce que le Seigneur veut pour lui, et ce qu'il est pour lui, c'est de se donner lui-même à Dieu. Personne ne m'obligera jamais à me donner à Dieu. Chaque fois que je considère que j'ai perdu mon temps sur une journée, ou une semaine, ou une partie de la journée, c'est des heures, du temps, où je ne me suis pas donné à Dieu. J'ai tourné en rond dans mes traficotages, dans mes trucs, hein, mais je ne me suis pas donné à Dieu. Donc, c'est ultimement un message d'importance majeure pour les chrétiens. L'injonction est de se donner soi-même à Dieu. Soi-même, pas parce que monsieur le pasteur le dit, ou parce qu'on verra, on ne sait jamais, ou parce que plus tard j'irai en enfer, etc. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'amour de Christ qui a tout fait pour moi. Alors, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Donc vous êtes vivant en Christ, vous avez compris que Jésus vous a donné le Saint-Esprit, vous a donné une nouvelle vie, mais pourquoi donc allez-vous vous donner au diable? Pourquoi voulez-vous vous donner à vos convoitises? Il y a une responsabilité dans la vie chrétienne. Et on ne demande pas à des chrétiens de rester des enfants. On demande à des chrétiens d'être responsables. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, donc des instruments de sainteté. Justice, sédèque, sadoc, des instruments de sainteté. Donc, il faut absolument, attention, c'est pour ça que dans Matthieu 5 à 7, Jésus dit, attention, il vaut mieux que tu, si tu pêches avec ton œil, il vaut mieux perdre ton œil que d'aller en enfer. Si avec ta main, tu fais des choses très mauvaises, et qui te risque de t'écarter de Dieu, t'amener en enfer, il vaudrait mieux perdre ta main. C'est quoi? Ben oui, parce que ta main, ton œil sont donnés pour être dans le chemin de la sainteté. Rien d'autre. Si je suis chrétien et que je suis bagarreur de nature, dès le moment où quelqu'un en rue ou autre part m'énerve, mon sang fait deux tours et il m'énerve une troisième fois, pam, tac, il est tendu par terre. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est devenu chrétien, c'était un fracasseur. Un fracasseur, c'était pas rigolo. Et maintenant, c'est un mouton. C'est quelqu'un qui ne le ferait plus jamais. J'ai connu un autre chrétien. Une assiette avec 25 crêpes, il les mangeait toutes. Deux mois après le baptême, il en mangeait trois. Pourquoi est-ce qu'il en manquait 25 avant, il en mangeait trois après? Parce qu'il s'est donné à Dieu et qu'il n'a pas livré son corps comme un cochon à la convoitise des crêpes. Tout ça, c'est tout simple. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, je ne vais plus faire ça, si et ça, parce que je ne faut pas. Mais non, c'est pas ça. Parce que le Seigneur Jésus est mort pour moi, parce que Jésus est vivant, parce que je peux m'approcher en lisant la Bible et en priant, m'approcher de lui. Je peux vivre dans sa présence. Je peux vivre avec son aide, son secours. Et sous son pouvoir, sous sa sainteté. Si moi j'en manque, lui il en a tellement qu'il peut me remplir de toutes ses bénédictions, de sainteté, de sagesse, d'intelligence. C'est pour ça que dans Colossiens chapitre 1, verset 30, Paul dit que Jésus, le Christ, a été fait sagesse, sainteté, rédemption, justice pour nous. Il y a tous les mystères incompréhensibles de la gloire de Christ à ma disposition. Le Seigneur Jésus est prêt à partager toute sa vie avec moi pour que je reste sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, c'est vivre avec Jésus-Christ. Rappelez-vous l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Cette église, que n'es-tu, bouillante ou froide? Tu es tiède, je te vomirai. Voici, je me tiens à la porte. Il est là. Ça veut dire qu'il est hors de l'église. C'est que Jésus est hors de l'église. S'il est à la porte de l'église et qu'il frappe. Eh bien, il dit, si vous m'ouvrez la porte, vous entendez ma voix, j'entrerai, je mangerai avec vous, et vous mangerez avec moi. Donc, la communication avec Jésus et le partage avec Jésus ne sont que un acte de plein consentement. C'est comme un vrai mariage. C'est comme une union. C'est une union d'amour avec le Christ. C'est pour ça que, sous la grâce, dans Romains 5, verset 5, il dit clairement que l'amour a été pour Dieu a été rempli, déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Nous sommes sous la grâce. Quelqu'un qui vit toujours, tout en étant chrétien, dans un esprit de culpabilité, il va finir toujours par tomber. Il va finir par tomber parce qu'il n'a pas compris la grâce. La grâce, c'est que la personne de Jésus est vivante, elle est avec moi. La personne de Jésus est avec moi, c'est à lui que je m'adresse pour avoir la force et la paix et la sainteté. S'il est à 2 cm de moi, Jésus, et que je regarde sur mon nombril et que je me plains tout le temps, et que je me culpabilise, c'est parce que simplement, je ne regarde pas sur Jésus, je regarde sur moi-même. Alors, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Si je regarde à moi-même, c'est parce que j'ai encore cette loi, c'est moi qui compte. Sous la grâce, c'est Jésus qui compte. C'est Jésus mon amour. C'est Jésus ma vie. Je ne suis plus esclave de moi-même ni du péché, je suis esclave de Christ, c'est-à-dire je suis attaché à Jésus-Christ comme un esclave, mais libre et volontaire. Libre et volontaire. Sans chaîne, sans coup de matraque, sans culpabilité, simplement par la foi. Le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, verset 16, n'est-ce pas? Alors, je continue. Au verset 6, chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, sorte de l'obéissance qui conduit à la sainteté. L'obéissance par amour envers Jésus, c'est pas l'obéissance pour éviter l'enfer. C'est simplement de l'obéissance parce que il est tellement précieux à mes yeux, Seigneur Jésus, il est tellement bon, il est tellement proche de moi, il m'a déjà tellement fait de bien, il a déjà tellement payé pour moi, et il est toujours là. Je me peux m'adresser en toutes circonstances à lui, et il peut compatir à toutes mes faiblesses. C'est clairement dit dans l'Épître aux Hébreux. C'est un grand prêtre souverain, il est capable de compatir à toutes mes faiblesses. Et donc, je peux être obéissant, c'est-à-dire attaché à lui. Mes grâces soient rendues, verset 17. À Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc, obéir de cœur, c'est obéir par amour, c'est obéir par compréhension intérieure profonde. Quand Pierre a dit, c'est, Seigneur, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Je me pose toujours la question, quand je dois vous prêcher, encore un dimanche, encore prêcher. Vous savez, belote et rebelote, hein. Bon, je me suis levé à 6h. Hier soir, je me suis couché à 10h30, j'ai dit, Seigneur, faites, s'il vous plaît, je vous en prie, je suis crevé, claqué, mais faites que je me lève à 6h, parce que demain je dois prêcher et que je ne veux pas faire le fonctionnaire en prêchant. Donc, pratiquement, Seigneur, que je sois levé. Bon, 6h05, j'étais levé. 6h05, j'étais levé. Le temps de me mettre sur le bord du lit, parce que je prends l'attention, hein, pour que le moteur monte en cadence, hein, mal partout, et puis après je descends ici. Je lève le feu, je m'installe ici, carpette, pas vers la Mecque, mais vers Jérusalem, et pratiquement, pas par Ramadan, mais simplement par amour du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Par obéissance de cœur, je comprends que Jésus était aimé de Pierre. Acquérions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, à un moment donné, c'était ça. Je le disais de moi-même à Jésus, à lui qui était là. Et c'est clair, ça c'est le cœur de ma vie, c'est le cœur de notre vie. Au verset 18, ayant été affranchi du péché, donc je ne suis plus en relation avec Dieu par la peur, par la crainte, par des dettes. Je suis en relation à Dieu par une obéissance de cœur à Jésus. Donc je suis libre du péché. Je n'ai pas de relation avec le péché. J'ai une vraie relation avec Jésus, donc je l'ai avec Dieu. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, donc il parle à des chrétiens qui patouchent. De même, donc, quand vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, très réaliste, notre Paul, pour arriver à l'iniquité, ben oui, pour être complice du mal, hein? Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, c'est-à-dire à la sainteté, pour arriver à la sainteté. Il faut se livrer comme esclave, comme serviteur à la sainteté, c'est Jésus, c'est lui la sainteté, pour arriver à la sainteté, pour arriver à devenir comme lui. Quand on admire Jésus, quand on a de l'immense respect pour lui, on finira toujours par avancer, millimètre par millimètre, ou par bond de kangourou, plus près de Jésus, et plus près de sa sainteté. Ça dépend de l'état de mon cœur. C'est pour ça qu'il est mis clairement au verset 17, « Obéis de cœur à la règle de doctrine. » Donc la règle d'enseignement chrétienne est une règle de cœur. Si vous avez été éduqué dans le catholicisme ou une autre religion, c'est la trouille. Je vais passer à pire en enfer. J'ai essayé et ça. C'est pas ça hein, avec, dans l'évangile. Ce n'est pas ça du tout. On est invité à une règle de cœur. Alors, il est mis clairement, verset 20, « Vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'écart de la justice. » Libre de Jésus, hein ? Libre de ce qu'il était. Vous pouviez faire votre carême, votre vendredi avec le poisson, vous pouviez faire ci ou faire ça, et puis on avait la paix. Chez l'autre à côté, la maison à côté, il peut faire un ramadan, il peut faire ses 5 ou ses prières, il a la paix. Je crois qu'il en orte. Et pratiquement, C'est pas ça. Vous étiez libre à l'égard de la justice, donc de Jésus, de la sainteté de Jésus, mais pour quels fruits portiez-vous? Les fruits dont vous réussissez aujourd'hui. Je suis en train d'évangéliser un monsieur qui est d'origine musulmane. Toutes les semaines, je vais le voir, on étudie la Bible. Il m'a dit, je connais tout le monde depuis 30 ans là que je fréquente dans la mosquée, dans tout le milieu musulman. Il y en a qui sont responsables de la mosquée, ils pratiquent l'adultère, ils boivent de l'alcool, ils mangent du porc, en cachette. Mais devant les autres, c'est des petits saints. Et il ne ferait pas bon de laisser votre fille, une de vos filles, tout seule dans l'auto avec, hein? Parce qu'avant d'arriver 30 km plus loin, il aura demandé si elle veut coucher avec. Donc, vous voyez, ce monsieur dit, moi j'en ai marre de tout ça, ce cirque. Je n'en veux plus. Je n'en veux pas. Et c'est clair que plus on s'attache à la façade, plus on s'attache à paraître saint, plus se développe quelque chose en nous de fort pour le péché. Et ça, c'est important de lire Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, il est clairement dit que celui qui s'attache, qui est sous la loi, eh bien, c'est comme s'il mettait de l'essence sur un petit feu. Romains chapitre 7, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Pas de règlement, rien du tout. Mais quand le commandement vint, j'ai une religion avec des règlements. Musulmans ou catholiques, n'importe. Ou même certains protestants, hein. Le péché reprit vigueur et moi je mourus. C'est-à-dire, plus je veux paraître saint et plus j'ai des règlements religieux, plus en moi, il y a quelque chose qui réclame le contraire et qui ça empire ma situation. Et c'est le double face de l'hypocrisie. Vous savez, plus j'avance, je ne sais pas quand le Seigneur revient, mais moi, je vois des souffrances quand même. J'ai deux églises amies, je ne citerai pas, où le responsable principal commet l'adultère. Pas une fois, hein. Parce que c'est vite fait de tomber dans la façade. Moi aussi, je peux être dans la façade. Il suffit que je ne m'approche plus de mon Seigneur et que je n'ai plus d'amour pour lui. Que je n'obéisse plus de cœur à lui, que je n'épanche plus mon cœur devant lui, et que je me préfère moi-même à Jésus. Mais vous allez voir les saloperies que je vais faire, avec le beau masque pour paraître saint après. Je me préfère à moi-même plutôt que Jésus. Non, à partir du moment où on est chrétien, on préfère Jésus dans ma vie, c'est mon Seigneur et mon Maître, pas seulement mon Seigneur. Et je sais que si je reste accroché à lui, je vais aller jusqu'au bout du chemin. Je n'aurai pas commencé le chemin pour me planter au milieu de la route. Alors, vous voyez ici, dans Romains chapitre 7, quand le péché survint, le commandement vint, le péché reprit vigueur et je mourus. Alors, verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, le commandement de Dieu, se trouva pour moi me conduire à la mort, c'est-à-dire encore plus loin de Dieu. Car le péché, saisissant l'occasion, dans mon cœur, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Si réellement vous n'avez pas découvert la personne de Jésus, s'il n'y a pas une révélation intérieure de la personne de Jésus, dans sa parole et par l'action du Saint-Esprit, vous avez une façade religieuse, tout en vous disant évangélique, même baptisé, une façade religieuse où vous vous planterez. Ça, c'est clair. Vous n'y arriverez pas. Il faut faire attention. C'est la qualité de votre relation personnelle intérieure avec le Seigneur Jésus et la réception de sa personne qui font votre richesse et votre force. Comme dit Paul, c'est dans ma faiblesse, et le Seigneur va se glorifier. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, Jésus lui dit, c'est dans ta faiblesse que je vais me glorifier. Et effectivement, ça a été le cas. Alors, continuons dans Romains 7, verset 11, le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Un jour, mes enfants étaient dans une école publique de l'État. à 30 km d'ici, 22 km exactement. Il prenait le bus tous les jours, presque une heure de bus, ressemblant à tous les villages. Et à un moment donné, il y a un gendarme qui était délégué par le ministère pour parler des affaires de mœurs et tout ça aux jeunes. Et dans la conversation avec la classe, le gendarme, que je connais bien, qui habite pas loin, je connais toute la famille, il dit quand même, c'est quand même pas mal la sexualité. Plus c'est interdit, plus on a de plaisir. Il était marié, il avait des gosses. Il osait dire, je pourrais être très plat, hein. J'ai travaillé sur les chantiers, je pourrais en sortir des mots. Là, mais ce qu'il y a, c'était beaucoup meilleur d'aller tirer son coup avec des autres, étant marié et ayant des gosses, du fait que c'est interdit. Eh oui. Eh bien ça, c'est clairement, depuis le péché d'Adam et Ève, le péché a cette puissance en nous, que si nous n'avons pas un amour réel pour le Seigneur Jésus, le péché sera le plus fort. Donc j'ai beau être baptisé et venir dans une église, zéro, parce que le péché est mon maître. Ou c'est le Seigneur Jésus qui est mon maître, ou c'est mon péché. Et ne mettons pas tout sur le compte du diable. Il a bon dos. Alors, continuons. Nous allons aller un peu plus loin, au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, donc elle en relation avec le Saint-Esprit. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, comme Adam et Ève, après leur chute. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc ça, c'est réellement la schizophrénie spirituelle. Le déchirement, la névrose spirituelle. Je suis complètement empêtré dans mes attirances, dans mes péchés. Je sais bien que je ne peux pas le faire, mais j'y vais. Et puis après, je suis torturé. Je connais des afflictions épouvantables qui me torturent. Verset 16. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela en moi. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Donc voilà clairement une décision, un bilan qu'il faut tirer. Il n'y a pas de bonne chose qui habite en moi. Si j'ai une image auto-flatteuse de moi-même, ce qu'on appelle la vanité, je ne vais jamais m'en sortir. L'orgueil va nourrir mon péché. Verset 17. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans mon humanité. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est extrêmement important de voir ça, parce que Paul, c'est quand même un brave type, il se montre comme il est. Hein. Il est passé par les chemins que nous passons tous. Hein. Et il le dit franchement, le péché est une sacrée puissance. Hein. Il est coriace, hein. Il habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, cette réalité directrice, que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu, je prends plaisir à Jésus, à l'Évangile, etc. Selon l'homme intérieur, donc dans mon cœur, dans mon âme. Mais je vois dans mes membres une autre lutte, une loi qui lutte contre la loi de mon entendement, la loi de mon âme, et qui me rend captive la loi du péché. Je suis prisonnier, je suis distordu, je deviens schizophrène spirituel. Il y a deux êtres en moi qui se battent, qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Donc l'aboutissement c'est, Seigneur, je suis un misérable, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Regarde comment je suis. Comme l'apôtre Pierre quand il trahit Jésus. Comme tous les autres. Qui me délivrera du corps de cette mort? Ce corps en moi où le péché habite ne peut me mener qu'à une chose. À la mort, c'est-à-dire à la séparation éternelle avec Dieu. Alors qu'est-ce que dit Paul? Qui me délivrera? Mais Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix. Jésus à la croix. Seigneur, je meurs aujourd'hui sur la croix pour... Par exemple, Michael n'est pas encore né, mais dans l'éternité, un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Il savait très bien que Michael allait naître du ventre de sa mère à telle date et mourir à telle date. quand Jésus est monté sur l'âne en Jérusalem, 6 siècles avant, Zacharie avait dit que le Fils de l'homme monterait à Jérusalem assis sur l'âne de l'ânesse. Il connaissait l'âne, il n'était pas encore né. Alors moi, la bourrique que je suis, il me connaissait aussi. S'il connaissait la bourrique que je suis, né à telle date, et que sur la croix, dans sa science infinie, il dit « Seigneur, je mors pour les péchés et cette nature pervertie de ce Jean Bayeux, 63 rue Grande, né de Alexis et de Lucie. » C'est de la liberté de Jésus-Christ de le faire. Hein. C'est de la liberté de Jésus-Christ de le faire. Puisqu'il est Dieu. Prenons la première épître de Pierre. Dans sa liberté, Jésus a choisi de me sauver. Dans sa souveraineté, dans son amour, il a choisi de me sauver. Oui. Donc ce qui compte dans mon salut, c'est quoi? C'est la décision souveraine de Jésus-Christ. C'est l'élection. C'est l'élection qui est à la base de mon salut. C'est pas mes sentiments, c'est pas mes hormones, c'est pas mes rencontres, c'est pas mes états d'âme, c'est pas que j'ai fait beaucoup de péchés ou très peu. C'est lui qui a décidé. Il savait, le petit bougre qui va naître là-bas, dans les bras de sa maman, ça y est, il est fourré de plein de péchés, il n'a pas choisi. Je peux le secouer dans tous les sens, ce péché ne sort pas par les oreilles ou par le derrière. Hein? Donc, il faut que je meure à la croix pour lui. Alors, première épître de Pierre. Ce Pierre qui ne comprenait pas que Jésus allait mourir sur la croix pour lui et qui refusait, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que fait Jésus? Il lui répond, arrière Satan, tes pensées sont celles des hommes. Parce que les hommes aiment bien la religion, mais n'aiment pas le salut par grâce. Et parce que Satan ne veut pas du sacrifice de Christ qui sauve les hommes. Et que fait Pierre? Comme le petit chien là, il baisse ses oreilles et il attend. Parce que Jésus l'a remis à sa place. Il n'y connaît rien du tout. Et bien plus tard, il y connaîtra quelque chose grâce à la Pentecôte, grâce au don du Saint-Esprit. Alors, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est l'élection qui compte. Ce n'est pas ma religiosité qui me sauve, ce n'est pas mes sentiments. Je n'ai pas choisi, j'ai été choisi. Après, je peux accepter ou refuser. Alors oui, dans ce cas-là, j'ai choisi. Je choisis parce que j'ai été choisi. Mais je choisis et je n'ai pas été choisi, ça ne sert à rien. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu, le Père, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dans Lévitique, hein, à 2-3 reprises dans l'Éternum aussi. Donc, c'est déjà de 15 siècles avant Jésus. « Si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Donc vous savez que Dieu existe, qu'il va juger les gens sur ce qu'ils font et ne font pas. Alors, faites gaffe, c'est comme un pèlerinage. Il y a un début, il y a une fin. Il faut arriver à Dieu. Alors, c'est pas qu'au bout du pèlerinage, vous serez hatch, hein. Saint, hein. Comme si vous allez à la Mecque, hein. Non, vous ne serez pas transformé. C'est un pèlerinage, il faut arriver au bout. C'est pas pour ça que vous serez saint. Non, regardez bien. Pourtant, le commandement d'être saint existe. Mais vous ne serez pas saint parce que vous avez souffert sur terre, vous avez pratiqué une religion. Non, regardez bien après ce qui est mis. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Donc, j'ai mis autant de sous à M. le curé à ma mort pour les messes. J'ai mis un champ et autant d'argent pour lui, pour la paroisse et les œuvres pontificales, hein, pour les missions, etc. etc. Hein? J'ai mis autant à la collecte. Bon. Ce n'est pas par tout ça que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, donc des juifs, et on peut dire tous les autres aussi, l'islam, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau sans tache, déjà, a été sacrifié pour Adam et Ève. Dieu a mis la peau d'agneau sur Adam et Ève, la marque de Christ. Le sacrifice d'Abel, l'agneau sacrifié de Abel, C'est le symbole, la prémonition de Christ. À Caïn qui offre des fruits, des fleurs, des légumes, lui, je me sauve par moi-même, par ma religion. C'est l'antique. On a les deux images, les deux chemins. Alors, l'agneau sans défaut et sans tâche, Abraham, sur le mont Morija, Genèse chapitre 22, voulait sacrifier son fils, avec l'accord de son fils, pour les péchés du monde. Dieu n'a pas voulu, c'est un pécheur. Il a dit, je pourvoirai. Prends le mouton-là, sacrifie-le, en annonce, 21 siècles avant, le sacrifice de Christ. Quand Jean-Baptiste voit arriver Jésus, il dit aux disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous y voilà, voilà l'agneau. Dans Isaïe 53, Jésus était mené à l'abattoir comme un agneau. Isaïe 53. Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, donc sans péché, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Donc à la fin des temps, eschaton, c'est depuis que Jésus est mort sur la croix. Je ne sais pas quand les témoins de Jéhovah l'ont décidé. La fin des temps, c'est là quand Jésus est mort et ressuscité, c'est fini, le règne du péché, on peut accéder à la vie éternelle tout de suite, par la foi en Jésus-Christ. Qui par lui croyait en Dieu, hein, vous voyez, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc il a été prédestiné, il a été offert, Jésus s'est offert lui-même pour nous, dès avant la fondation du monde, il nous connaissait. Mieux qu'un ordinateur ne nous connaît, de la police ou de la banque. Hein. Il nous connaît. Regardez bien quand il rencontre Nathanaël sous le figuier. Voici un Israélite sans fraude. Ben, d'où me connais-tu, Nathanaël? Ben, quand j'étais avec Philippe, et j'étais peut-être à 5 km, j'étais sous le figuier, je t'ai vu. L'autre là, il rentre dans ses souliers et il dit, bon, c'est bon, j'ai compris. Nathanaël, il ne fallait pas longtemps pour comprendre qu'il avait en face de lui Jésus. Quand vous vous retirez dans votre chambre, c'est le même Jésus qui a parlé à Nathanaël et qui le voyait en étant 5 km et qui parlait avec Philippe. Quand vous êtes dans votre chambre ou dans l'auto, c'est ce même Jésus qui vous regarde, qui est en face de vous. Non, d'une Bible, ne faites pas un petit Jésus comme ça, compacté. Par une boîte de... Ce Jésus de Nazareth, qui était en face de Marie de Magdala, de Jeanne et Salomé, à la résurrection, à la sortie du tombeau, qui a été devant les 500 frères sur le mont Tabor. Ce Jésus de Nazareth est bien vivant. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alors, Seigneur, je sais que tu es là, et je te donne tout pouvoir dans cette journée sur moi. Ça, c'est pas l'obéissance de cœur? Parce que moi, si je conduis ma vie tout seul, hein, aujourd'hui, ça va être grave. Hein. Hier, c'était pas brillant, et demain, ça sera pas encore brillant. Seigneur, tu as tous les pouvoirs, je te la confie. Je te confie pas seulement ma journée, je te confie moi-même. Mon cœur, mes pensées, tout. Je m'endors, je sais bien, Seigneur, que j'aurai des pensées lubriques. Je sais bien, Seigneur, que je vais me fracasser pour les soucis d'argent. Je sais bien que je vais convoiter telle femme que j'ai vue il n'y a pas longtemps, etc. Seigneur, je te confie ma nuit, au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, chasse tous ces messages de Satan loin de moi. Prends toute la place pendant ma nuit, dans mes rêves et mes pensées. Imaginez combien d'hommes vont travailler dans les bureaux et de femmes. Ils ne sont pas mariés ensemble. Ils ont 2 heures dans le temps de midi. 2 heures. Au Luxembourg, c'est comme ça. Madame se met sur son 6:32 pour partir. Monsieur arrive, lui, il a son costard cravate, il monte travailler à la banque, et puis 2 heures de libre. Et puis il la regarde dans tous les... S'il n'a pas le Seigneur Jésus en disant, Seigneur, mon temps de boulot, et ces 2 heures-là d'arrêt t'appartiennent, il va faire quoi? Ça veut dire que 3 ans plus tard, comme pour tous les autres, 60% sont divorcés et ont couché avec quelqu'un du bureau, et puis, pour 2-3 ans plus tard, ont quitté la femme et les gosses. 60%, c'est une statistique. 60%, ceux qui ont quitté. Il y a tous ceux qui n'ont pas quitté le conjoint, mais qui le font quand même.
Ajoutons encore 25%, ça fait 85%. Il en reste 15% de sérieux. Dans les 15% de sérieux, il y en a encore qui fantasment la nuit. Ah, si je pouvais. Ah, si je ne regardais pas mon portefeuille. Si je n'avais pas peur de ma femme. Donc il en reste 3% qui sont honnêtes avec leur conjoint. Ma parole, c'est quoi cet enfer-là sur terre du péché? Tout ça parce qu'on ne se met pas dans la présence du Seigneur Jésus. Alors, vous imaginez, sur une église, 15 personnes, 600 personnes dans une église, ils vont au boulot tous les jours. Combien de chrétiens ont donné leur vie à Jésus réellement tous les jours pour ne pas être cernés par les séductions, les convoitises, le péché? S'ils n'ont pas compris que la vie chrétienne est une lutte contre le péché et un don complet à Jésus, une adoration de Jésus, même les pasteurs commettront l'adultère, même les meilleurs finiront par quitter leur femme ou leur mari et faire le plan du diable, c'est-à-dire chercher à détruire les églises. Alors, regardons bien dans la première épître de Pierre, chapitre 1. Prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, vous, les chrétiens, à qui Pierre parle ? Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, donc à Jésus-Christ, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment, ardemment, c'est avec du feu, les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc ceci n'est pas un bouquin avec des lettres mortes. Ceci, ici, est une parole vivante. C'est-à-dire que quand je le lis, Jésus est vivant et me parle. Quand je lis ceci, Jésus est vivant et me parle. Suis-je conscient de ce que je fais quand j'ouvre la Bible et que je lis que Jésus est vivant et me parle? C'est là la base de la vie chrétienne. Autrement, c'est de la rigolade. On finira toujours mal. On finira toujours mal. Parce qu'on est passé à côté de Jésus. De Jésus ressuscité. Les amis, nous reparlerons de tout ça. Le baptême. Le baptême est réellement que la vie ancienne est passée et que la vie nouvelle est en Christ. On l'a vu dans Romains chapitre 6. Relisez-le. C'est en Christ. Vous savez très bien que l'Épître aux Romains est un passage de la Bible très difficile à lire. Très difficile. Mais quand même, c'est le livre de base qui clarifie toute la foi chrétienne. Donc, quand vous avez au chapitre 7, verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. » Regardez bien ce qui est mis, hein. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. La loi de Moïse et les 10 commandements ne sont plus mon maître. C'est la personne même du Seigneur vivant et ressuscité qui est mon maître. Parce que si je me repose sur la loi, le péché rebouillonne. Il fait tout péter. J'accomplirai pas la loi. Il y a toujours bien un ou deux commandements que j'accomplirai pas. Et vous savez bien dans l'Épître aux Galates qu'il est mis que la loi ne sert de rien. Pour celui qui, il faut aller à la grâce. De même, mes frères, Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc c'est fini la loi. Fini le péché, fini la loi. Pour que vous apparteniez à un autre. Non, le Jésus-Christ. À celui qui est ressuscité des morts. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, nous appartenons à celui qui est ressuscité pour porter des fruits pour Dieu. Quels sont les fruits que je peux donner à Dieu? Simplement mon amour pour Jésus. Dieu sait très bien que je vais encore faire les choses à moitié, ou à un quart, ou à 9/10, et que je suis un pécheur. Jésus l'a dit, je suis venu pour les pécheurs, pour les malportants. Jean l'a dit dans son épître, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Dieu sait tout ça.
Donc, il sait très bien qu'on ne va jamais avoir 10 sur 10 tous les jours, à la fin de la journée, en bas de la page. Journée excellente, 10 sur 10, 20 sur 20. Jamais. J'aurai 14 sur 20 ou j'aurai 11 sur 20 suivant les jours. Peut-être 8 sur 20. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dans ma journée, pour le Seigneur, si je vais donner au Seigneur, même que j'ai 8 sur 20 ou 19 sur 20, si je l'ai donné au Seigneur, je suis heureux. Parce que le Seigneur m'aime et est avec moi dans ma vie. Donc, l'image que je me fais de moi-même n'a pas d'importance. Que j'ai 8 sur 20 ou 19 sur 20, pas d'importance. Le mieux, c'est le 19 sur 20. Mais ça n'a pas d'importance, parce que je ne retirerai jamais d'orgueil de ça. Mon bonheur, c'est d'être avec Jésus. Et de l'aimer comme Dieu me le demande. Celui qui a le Fils a le Père. L'apôtre Jean le dit. Celui qui a le Fils a le Père. Donc notre relation, c'est pleinement une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Quand vous regardez dans la pièce à côté, on m'a donné des grands cadres à droite et gauche, hein, des gens qui déménagent. Ça date de la génération d'avant, hein, chez les catholiques. On voit Jésus qui a un cœur là, et puis il monte son cœur. Mais c'est beau. Les gens n'avaient rien d'autre, ils ne savaient pas lire la Bible, ils n'en avaient pas une. Mais qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils se rendaient compte que Jésus avait un cœur énorme pour eux, les aimait. Eh bien, il y a plein de gens qui ont compris qu'il fallait aimer Jésus. Ce n'était pas l'essentiel. Plus que soi-même, hein ? Plus que soi-même. Alors, donc, vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, donc, dans la nature que Adam et Ève m'ont donnée, que mes parents m'ont donnée, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Les passions provoquées, hein, des péchés étaient amplifiées par le fait que c'était interdit. Regardez bien sur une route nationale, c'est mis 90. Tout le monde va être à 100 à l'heure. Ou 110. Quand c'est mis 90, vous pourrez être à 85 ou 80. C'est mis 90, ça veut dire un maximum. Mais nous, parents, nous faisons déjà ça sur la route. Alors, quand nous avons des enfants, nous indiquons, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais il va transgresser. Nous avons en nous l'amour de la transgression, nous le donnons à nos enfants. Et on prétend qu'on ne l'a pas, l'amour de la transgression. On l'a tous. Il faut vraiment avoir compris que la transgression est un plaisir intérieur provoqué par le péché. À ce moment-là, le chrétien dit, non, moi, je vais respecter le 90. Il y a eu assez de morts cette année-ci sur la route. C'est marqué 30 à l'heure, je fais 30 à l'heure. C'est marqué 110, je reste. Pourquoi ? Il y a eu trop de morts en France. Il y a trop de morts en Belgique. Je ne veux pas être auteur, co-responsable de tous ces morts. Je veux respecter les autorités que Dieu m'a données qui veillent à notre bien. Et c'est dans ce sens-là qu'on ne fait pas parce qu'on doit, on fait parce qu'on aime Dieu. Quand il m'est arrivé plusieurs fois d'être tenté par l'adultère, ah oui, qui n'est pas. C'est parce que j'aimais le Seigneur Jésus que je ne suis pas allé là-dedans. C'est parce que j'aimais le Seigneur Jésus. Quand on vraiment le péché vous ronge, c'est pas la peur de l'enfer qui vous arrête, hein. Vous y allez tout droit quand même, hein. Parce que l'enfer, enfer c'est loin, mais un peu de plaisir maintenant, l'enfer on verra plus tard. Mais si vous aimez le Seigneur Jésus, vous savez qu'il est là. Vous ne pouvez pas trahir son amour. Vous allez apprécier et garder son amour. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention. Les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non la lettre, selon la lettre qui a vieilli. Un esprit nouveau. Voilà. Donc le baptême est, il y en a plusieurs qui seront baptisés, je l'espère en tout cas, c'est simplement quand ils sortent de l'eau, c'est pas simplement pour être mouillé, pour dire, j'ai envie de servir le Seigneur dans un esprit nouveau. Pas sous la loi et pas sous la domination du péché. S'ils ont compris ça le jour du baptême, vas-y Nénès, il n'y a plus qu'à se battre tout le reste de sa vie. Parce que c'est un sacré combat. Avec la grâce de Dieu, avec son aide, avec sa présence. Qui veut prier?
Amen.